Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Cette semaine, nous allons vous parler de ce festival de cinéma et culture de l'Amérique latine qui a eu lieu à Biarritz la semaine dernière. Et là, vous allez entendre les éditos, quelques extraits des éditos des présidents du conseil de la Gironde, Alain Rousset, n'est-ce pas ?
Conseil régional.
Et aussi régional, et aussi de la maire de Biarritz.
Biarritz.
Voilà.
Alors voilà ce que nous dit Alain Rousset. Cette 32e édition s'inscrit dans un anniversaire symbolique qui a donné lieu à un focus Chili. Le 11 septembre 2023 marque en effet les 50 ans de la mort de Salvador Allende et du coup d'état militaire d'Augusto Pinochet au Chili, mettant fin brutalement au gouvernement de l'unité populaire victorieux dans les urnes 3 ans auparavant. Après sa mort, Allende devient une figure héroïsée pour la gauche internationale et une icône politique mondiale. En même temps, des milliers de Chiliens prennent la route de l'exil et se retrouvent en France et en Europe où s'organise un grand élan solidaire. Et la mairesse donc, de Biarritz, Maider Arostegui, nous dit « Plongeons ensemble dans l'univers fascinant du Chili. Des rencontres universitaires et littéraires, tables rondes, expositions, cycles de films et la présence exceptionnelle de Costa Gavras permettront de mieux comprendre l'histoire et l'impact des années Allende et Pinochet sur le Chili actuel et éventuellement d'en tirer les leçons pour nos démocraties européennes. »
Voilà. Et parmi les intervenants justement sur le Chili, ce tragique coup d'État du 11 septembre 1973, il y avait ce universitaire, professeur à la Sorbonne, Olivier Compagnon, n'est-ce pas ?
Oui, Olivier Compagnon donc nous dit « Au Chili comme ailleurs, le cinéma, quelle qu'en soit la forme, donne à voir les failles, les clivages, les tensions qui parcourent la société et travaillent les individus. Au Chili, peut-être un peu plus qu'ailleurs, car l'explosion sociale qui a profondément marqué la fin de l'année 2019, ainsi que le cycle politique contrasté qui s'est ouvert depuis, de la victoire du président Gabriel Boric jusqu'au rejet du projet d'une nouvelle constitution, attestent que les plaies ouvertes il y a 50 ans, lorsque le projet progressiste et démocratique de l'unité populaire a été brutalement écrasé par le coup d'État du 11 septembre 1973, ne sont pas refermés. Dans le pays où la croissance économique a été spectaculaire au cours des dernières décennies, le passé n'est pas passé. Dès lors, qu'est-ce que le cinéma nous donne à voir ? Les traumatismes d'un demi-siècle d'histoire que les victimes, mais aussi parfois les bourreaux, continuent de digérer et de transmettre de génération en génération. Véritable laboratoire du contemporain, le Chili, saisi par les images, invite plus que jamais à penser le monde de nos années 2020.
Oui, et on peut ajouter que Olivier Compagnon avait donné un entretien, il a été interviewé par le journal Le Monde, et à la question qu'on lui a posée, pourquoi la voie chilienne vers le socialisme a-t-elle suscité un tel engouement en Europe dès 1970. Et la réponse d'Olivier Compagnon. L'unité populaire est une expérience unique dans l'histoire du socialisme du XXe siècle. Elle est à la fois radicale dans sa volonté de transformation sociale et enracinée dans la démocratie. L'expérience chilienne apparaît comme l'utopie parfaite d'une révolution authentique, d'autant que les discours s'accompagnent d'actes. La réforme agraire rend possible une redistribution des terres qui transforme la condition paysanne. Et plus loin, Olivier Compagnon parle aussi de l'émotion. L'écho international du 11 septembre est proportionnel à l'enthousiasme qui avait suscité l'arrivée au pouvoir de l'Unité populaire. Une foule de photographes, de cinéastes, d'intellectuels venus de l'étranger étaient présents au Chili au moment du coup d'État. Un nombre incroyable d'images ont été produites lors de cet événement. En face, la junte affiche sans vergogne les photos du stade, où sont parqués les opposants, circulent partout. Cette médiatisation avive les sensibilités, notamment à la nouvelle du sacrifice d'Allende. Dans l'histoire mondiale de la gauche, le 11 septembre 1973 a aussi contribué à effriter l'utopie révolutionnaire, car c'est à partir de ce moment que les gauches substituent peu à peu les paradigmes des droits humains à celui de la révolution. Et il faut parler aussi du rôle de l'ambassade de la France à Santiago du Chili à ce moment-là. Et l'ambassadeur de France à Santiago, Pierre de Menton, joue un rôle important en convaincant Pompidou d'ouvrir l'ambassade à des centaines de Chiliens menacés par la répression. Voilà donc ce que, parmi d'autres choses, que a indiqué Olivier Compagnon au festival. Il a parlé pendant une heure et demie presque, pas Béatrix ?
Oui, c'était intéressant.
Et sans notes, sans rien, c'est incroyable. C'est un grand spécialiste.
C'est pas un universitaire pour
rien. C'est incroyable. Bon, nous allons peut-être entendre un peu de musique.
Yo no quiero la patria dividida ni por siete cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo no quiero la patria dividida ni por siete cuchillos desangrada. No quiero la patria dividida, cabemos todos en la tierra mía, y que los que se creen prisioneros se vayan lejos con su melodía. Siempre los ricos fueron extranjeros, que se vayan a Miami con sus tías. Yo no quiero la patria dividida, se vayan lejos con su melodía. Patria dividida, cabemos todos en la tierra mía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía, en esta nueva historia y geografía.
Víctor Jara, no quiero la patria dividida, je ne veux pas la patrie divisée. Et pourtant, ça continue. Il y a encore des personnes qui sont pour la dictature de Pinochet. C'est incroyable. Il y a la version qui nous présente Eduardo Galeano, cet grand écrivain uruguayen, sur 1973.
Dans ses Mémoires du feu.
Voilà, oui.
Un grand nuage noir s'élève du palais en flammes. Le président Allende meurt à son poste. Les militaires tuent des Chiliens par milliers dans tout le pays. Le directeur de la CIA, William Colby, explique à Washington que grâce aux fusillades, le Chili échappe à la guerre civile. Madame Pinochet déclare que la douleur des mères achètera le pays. Une junte militaire de 4 membres, formée à l'école des Amériques de Panama, occupe le pouvoir, tout le pouvoir. Elle est dirigée par Augusto Pinochet. Une histoire militaire résonne sur un fond d'explosion et de mitraille. Les radios diffusent des ordonnances et des proclamations qui promettent encore plus de sang. Le poète Pablo Neruda, moribond, demande des nouvelles de la terreur. Depuis qu'il a entendu les paroles d'Allende à la radio, son adieu, si digne, le poète agonise. La maison de Neruda, toujours dans l'extrait des Mémoires du feu de Eduardo Galeano. Au milieu de la dévastation, dans sa maison réduite en 1000 morceaux, à coups de hache, Neruda, mort d'un cancer, mort de chagrin, gît. Comme sa mort ne suffisait pas, les militaires ont-ils assassiné les choses? Ils ont éventré son matelas, brûlé ses livres, cassé ses lampes, ses bouteilles de couleur, sa vaisselle, déchiré ses tableaux et écrasé ses coquillages. C'est cette maison dévastée, envahie d'eau et de boue, que le poète quitte pour le cimetière. Un cortège d'amis l'accompagne, mené par sa femme Mathilde Urrutia. De rue en rue, le cortège s'allonge. De partout, les gens affluent et marchent en dépit des camions militaires hérissés de mitrailleuses et des carabiniers et soldats qui vont et viennent en moto ou dans des voitures blindées, faisant du bruit, faisant peur. Derrière une fenêtre, une main salue. Sur un balcon, un foulard s'agite. Aujourd'hui, 12 jours de silence et de mort après le putsch, on entend pour la première fois l'Internationale au Chili murmurer, sangloter, plus que chanter jusqu'à ce que le cortège devienne procession et la procession manifestation. Et le peuple qui avance contre la peur se met soudainement à chanter à plein poumon de toute sa voix pour accompagner Neruda, le poète, son poète, dans son dernier voyage.
Oui, et comme je l'avais indiqué dans nos émissions précédentes, peut-être l'année dernière, j'ai assisté avec la foule, comme on dit là, à l'enterrement de Pablo Neruda. Et c'est vrai qu'on avait peur parce qu'il y avait des militaires un peu partout. Et parfois, moi-même, je suis un peu à distance du groupe, j'ai entendu chanter l'Internationale. Voilà donc, c'est des expériences qu'on n'oublie pas. Oui, nous allons donc écouter une chanson chantée par un Français sur Neruda et le tragique destin de ce poète.
Je vais dire la légende de celui qui s'est enfui et fait les oiseaux des Andes se taire au cœur de la nuit. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours meurent, on ne sait comment. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux. Et l'injustice rebelle, Paris ou Santiago. Nous parlons même langage et le même chant nous lie. Une cage est une cage en France comme au Chili. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Sous le fouet de la famine, terre, terre des volcans, le gendarme te domine, mon vieux pays arrogant. Pays double où peuvent vivre des lièvres et des pumas, triste et beau comme le cuivre au désert d'Atacama. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Avec tes forêts de hêtres, tes myrtes méridionaux, oh mon pays de salpêtre, d'arsenic et de guano. Mon pays contradictoire, jamais libre ni conquis, verras-tu sur ton histoire planer l'aigle des Yankees. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Absent et présent ensemble, invisible mais trahi, Neruda, que tu ressembles à ton malheureux pays. Ta résidence est la terre et le ciel en même temps, silencieux, solitaire et dans la foule chantant. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire, c'est Jean Ferrat, Béatrix,
oui,
qui chante donc à Pablo Neruda. Vous êtes bien écouté l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et dans notre émission précédente, on avait évoqué justement que Costa Gavras, le cinéaste, avait été invité au Festival de cinéma à Biarritz. Et il nous avait dit, en 1972, je suis allé au Chili. J'ai pu m'entretenir avec le président Salvador Allende. Jamais je n'ai rencontré un chef d'État qui dégageait autant de détermination. J'étais fasciné par lui. Il avait une apparence de médecin de campagne, mais il respirait la force. J'ai éprouvé une grande admiration. Je suis revenu le voir quelques mois plus tard pour tourner état de siège au Chili. Le Chili a été le seul pays d'Amérique latine qui a accepté ce tournage et le président Allende m'a permis de le faire dans les meilleures conditions possibles. Voilà donc ce qu'avait dit du Chili et de Salvador Allende le cinéaste Costa Gavra, qui est le président maintenant de la Cinémathèque, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, et qui vient d'avoir 90 ans.
Oui, oui, mais bon. nous allons remémorer, on peut le dire, un événement tragique aussi, vous allez entendre.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.
Voilà un extrait donc du discours prononcé à l'ONU par Ernesto Che Guevara. Nous rappelons de son assassinat, comme on l'a dit quelque part en écrivain, en Bolivie. Ernesto Che Guevara assassiné le 9 octobre 1967, si je ne me trompe pas. C'est bien
oui,
ça?
Oui, oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que...
Témoignage?
Oui, s'il vous plaît, une dame.
La
oui.
Vieille Chana, paysanne de la Sierra Maestra, se souvient de lui. Pauvre petit Che, je le voyais toujours avec ce problème de son asthme et je disais « Ah, Sainte Vierge !» Pendant ces crises, il restait tranquille et respirait tout doucement. Il y en a qui deviennent hystériques avec l'asthme, ils toussent la bouche et les yeux grands ouverts. Mais lui, le Che, il essayait d'apprivoiser la crise. Il se mettait dans un coin en attendant que l'asthme se repose. Il n'aimait pas la pitié. Si quelqu'un lui disait « Pauvre de toi !» il lui lançait un regard qui ne voulait rien dire, mais qui en disait long. Moi, je lui préparais quelque chose de bien chaud pour lui réchauffer la poitrine et le soulager. Et lui, beau parleur, il me disait « Ah, ma fiancée !»
Oui. Mais oui, c'est très intéressant de savoir comment se comportait Che Guevara vis-à-vis des personnes natives à Cuba et en Bolivie. Et il y a aussi le témoignage d'Eduardo Galeano.
Dans la Sierra Maestra, à Cuba, Che Guevara, médecin, traite une file interminable d'enfants presque nains, au ventre gonflé, de jeunes femmes vieilles, épuisé d'avoir tant accouché et de ne pas manger, et des hommes qui sont comme des peaux sèches et vides, car la misère transforme chacun en sa propre momie.
Voilà, et nous allons parler de la fin du Che.
Là, donc, le 9 octobre 1967, 1800 soldats dirigés par des Rangers venus des États-Unis marchent sur leur ombre. Le cercle se rétrécit de plus en plus. Finalement, deux paysans, délateurs et les radars électroniques de l'agence de sécurité des États-Unis permettent de les localiser très exactement. La mitraille lui brise les jambes. Il continue à combattre assis jusqu'à ce qu'on lui fasse sauter son fusil des mains. Les soldats se disputent à coups de poing sa montre, sa gourde, son ceinturon, sa pipe. Plusieurs officiers l'interrogent l'un après l'autre. Le Che se tait. Il perd son sang. Le contre-amiral Ugarte Teche, chef de la marine d'un pays sans mer, l'insulte et le menace. Le Che lui crache au visage. L'ordre arrive de la passe de liquider le prisonnier. On le crible d'une rafale de balles. Le Che meurt, fusillé, trahi, un peu avant sa 40e année, à l'âge où sont morts fusillés eux aussi et aussi trahis Zapata et Sandino. Dans le petit village de Higueras, le général Barrientos exhibe son trophée aux journalistes. Le Che gît sur la pierre du lavoir. Après l'avoir criblé de balles, on le crible de flashs.
Oui, il faut signaler aussi que l'écrivain prix Nobel Vargas Llosa écrit quelque part dans son livre sur l'Amérique latine que Che Guevara était un homme très, très honnête. Il n'a jamais voulu avoir des choses pour lui. Et donc, c'est que quelqu'un qui continue à parfois, à faire rêver des justice sociale.
Esta samba con redoble libertario mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales.
Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos. Et merci à Antoine qui nous aide beaucoup dans la technique. Muchas gracias, hasta pronto.
Explotan al campesino, al minero y al obrero. Cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino.